Voilà, notre invité est là, c'est Didier Sassaï, formateur à INADES. Bonjour monsieur Didier.
Bonjour monsieur.
Alors, comment gérer d'une manière rationnelle un microcrédit? Vous venez de recevoir un microcrédit auprès d'une institution financière afin de fructifier vos activités. Hein, il faut rembourser cet argent dans un timing fixé et avec un pourcentage convenu d'avance. Il peut arriver que cet argent soit mal utilisé, on ne sait plus comment rembourser, certains ont vu leurs biens confisqués. Alors, que faut-il faire pour éviter de telles situations? Monsieur Didier, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, je dois dire que il faut deux grandes étapes.
Oui.
La première étape, c'est préparer l'obtention de son crédit.
Mmh.
Et la deuxième étape, c'est réaliser son projet.
Mmh.
Parce que je crois que vous l'avez si bien dit, le crédit, c'est de l'argent que l'on prend auprès d'une banque ou bien auprès d'une institution de microfinance.
Oui.
Et qui doit être remboursé. Et généralement, qui doit être remboursé avec un intérêt. Donc, nous allons développer les deux grandes parties.
Mm-hmm.
Nous allons déjà prendre la première qui est préparer l'obtention de son crédit.
Comment préparer l'obtention du crédit?
Oui, donc là, je dis que premièrement, il faut bien connaître l'institution de microfinance ou la banque à laquelle on s'adresse pour avoir un crédit.
Mm-hmm.
Et là, vous avez besoin des procédures en vigueur en matière de crédit. Quelles sont les procédures que cette banque ou cette institution utilise? Quels sont les avantages qui sont accordés aux emprunteurs, ainsi de suite. Deuxième chose, il faut calculer le coût du crédit. Ça, c'est vraiment des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire.
Oui.
Et il faut bien le faire. Et dans le coût de crédit, nous voyons d'abord le coût financier. Il faut savoir que le crédit va se rembourser avec un intérêt.
Oui.
Et là, vous avez besoin de savoir en tant qu'emprunteur quel est le taux d'intérêt qui est pratiqué au niveau de l'institution.
Généralement, c'est quel est le taux qui est souvent pratiqué?
Bon, généralement, c'est souvent difficile de dire, mais ça dépend des coûts de chaque institution.
Oui.
Mais tout ce que je sais, c'est que pour
Ça varie entre... Oui, qu'est-ce que prévoit la loi?
La loi, c'est... il ne faut pas dépasser 5%.
Il ne faut pas dépasser
5%, mais vous savez que on est dans un pays où il y a plusieurs facteurs qui jouent pour la fixation des taux d'intérêt. Donc, mais je sais que ça peut varier entre 3 et peut-être jusqu'à 10%.
3 jusqu'à 10%.
Oui, de 3 à 10%.
Oui, là, c'est à rembourser c'est par an ou c'est pendant une période de 6 mois, ça dépend. Hein.
Bon, normalement, le taux d'intérêt, il est fixé là, mais on peut avoir un crédit pour 3 mois. On applique le même taux d'intérêt, mais en calculant sur 3 mois ou sur 6 mois, ça dépend du crédit que l'on a eu.
Voilà.
Alors, le deuxième type de coût qu'il faut calculer, c'est le coût des transactions. Et vous devez quitter votre maison pour aller là où se trouve l'institution qui doit vous octroyer le crédit.
Mmh.
Donc vous devez payer un transport.
Oui.
Souvent on ne tient pas compte de ça. Il y a le transport qu'il faut payer. Et là, le jour que vous allez chercher le crédit, ce n'est pas le jour où vous l'obtenez. Donc vous pouvez faire
2, 3, 4 fois.
Oui.
Oui.
Donc tout ça, il faut calculer.
Mais si vous avez votre véhicule, il faut calculer le coût du
carburant. Même si
vous
avez votre véhicule, vous devez calculer le coût de carburant et peut-être même l'amortissement et ainsi de suite, que des coûts auxquels vous devez faire face.
Oui.
Il y a même des institutions qui demandent que vous puissiez d'abord suivre une formation. Et cette formation-là est tantôt payante, tantôt pas. Même si ce n'est pas payant, en tout cas, il faut calculer le coût du temps que vous allez mettre lorsque vous êtes là-bas.
Mmh.
Là, c'est le coût des transactions.
Oui.
Il y a aussi d'autres exigences qui peuvent être peut-être en termes de coûts financiers ou pas. Mais il y a aussi les coûts d'opportunité. Ça, c'est le coût auquel on ne fait pas attention le plus souvent. C'est un peu le coût que je calcule quand je dis... Le moment que je prends, le temps que je vais prendre pour quitter la maison ou mon entreprise pour aller à l'institution de microfinance, le temps que je vais prendre pour suivre une formation, c'est un temps que je peux utiliser pour faire autre chose. Est-ce que si je fais quelque chose pendant ces temps-là, qu'est-ce que cela pourra me rapporter ? Et souvent, on ne fait pas attention à ça, donc c'est le coût qu'il faut calculer.
Oui.
Donc, maintenant, le coût du crédit, ça sera le coût financier, auquel vous allez ajouter le coût des transactions, auquel vous allez ajouter le coût d'opportunité. C'est ça le coût total au point de vue de l'emprunteur. Maintenant, par rapport à ça, quel est le défi? si je veux bien gérer mon crédit.
Oui.
Le défi déjà à ce niveau-là, c'est qu'il faut minimiser le plus le coût des transactions et le coût d'opportunité. Pourquoi j'ai dit transaction et opportunité? C'est parce que le coût financier, l'emprunteur, lui, il ne sait pas le contrôler.
Oui.
Le coût financier, le taux d'intérêt est fixé par l'institution. Et si vous acceptez de prendre le crédit dans cette institution, ça veut dire que vous acceptez ce taux d'intérêt en vigueur.
Mmh.
D'ailleurs, nous allons le voir plus loin. Il y a un contrat que vous devez signer lorsque vous avez eu un crédit et ainsi de suite. Donc, alors, la troisième étape dans la première partie qui est préparer l'obtention du crédit.
Oui.
Il y a la collecte et la validation de l'information sur l'objet du crédit. Au fait, je me pose la question en tant qu'emprunteur. Quelle activité je vais exercer pour que je puisse avoir de l'argent qui me permette de rembourser le capital, l'intérêt, et je ne travaille pas pour l'institution de microfinance.
Oui.
Je travaille d'abord pour moi-même.
Vous allez avoir des
donc,
bénéfices aussi.
Oui, quel bénéfice je vais avoir?
Mais généralement, ces institutions ne donnent pas des microcrédits à ceux-là qui n'ont encore rien. Vous devez déjà avoir une activité. C'est à ce moment-là qu'on vous donne les crédits.
Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'activité? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question.
Oui.
Généralement, on a quelque chose à faire. Hein, on peut être maraîcher, on peut être peut-être vendeur de journaux et ainsi de suite. Donc, on a généralement une activité à exercer.
Oui.
Mais maintenant, il s'agit de bien analyser le type d'activité que vous voulez exercer pour que vous puissiez avoir un crédit qui vous permette de rembourser facilement ce qui est exigé par l'institution et puis que vous puissiez rester avec de l'argent comme bénéfice. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Mmh.
Là, il faut voir par rapport au projet. C'est ce que moi j'appelle le projet d'affaires. Vous devez faire votre projet d'affaires si vous voulez prendre un crédit. Et là, vous avez besoin de savoir est-ce que les intrants sont disponibles pour que je puisse réaliser une activité. Si je suis, par exemple, dans le maraîchage, je dois dire qu'est-ce que je veux faire. Quel type de produit maraîcher moi je veux produire. Pour quel type de marché? Est-ce que le marché existe? Par rapport à ces marchés, quels sont les prix qui sont pratiqués maintenant? Et ça, c'est de l'information que vous devez avoir pour valider votre projet et savoir si c'est un projet porteur ou pas.
Et il faut avoir un projet écrit. Hein?
Bon, ça peut ne pas être écrit, mais c'est toujours mieux que ce soit écrit pour que plus tard, nous allons voir quand vous allez le réaliser. Si ce n'est pas écrit, vous risquez d'oublier.
C'est ça.
Vous risquez d'oublier plusieurs détails.
Voilà, Didier Nsaï, on revient tout à l'heure. Donc, posez vos questions, vous avez des réactions. Notre invité est là pour vous rendre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Alors, Monsieur Didier, dans cette émission, les auditeurs appellent. Ils nous suivent de partout à travers la République. Ils appellent, ils ont des préoccupations. Là, par exemple, nous avons Jeff qui nous appelle depuis Kinshasa. Jeff, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, je voulais avoir les conseils auprès de notre intervenant pour les microcrédits. Parce que nous avons remarqué que, bon, nous, quand on épargne, on nous donne un petit taux, par exemple, de 8% l'an. Mais quand il faut demander un crédit, et il nous demande, il nous donne des taux de 8% le mois. Alors, vous voyez que cette marge-là ne nous permet pas vraiment de prendre un crédit. On hésite, tout cela. Alors, on voulait voir quel conseil il peut nous donner pour nous permettre, parce que nous savons que nous, les crédits aident quand même les gens à entreprendre quelques activités. Mais on a peur de ces taux-là. L'air taux est vraiment un peu exorbitant. Je voulais savoir quel, est-ce que c'est toutes les institutions qui ont les mêmes taux? Parce qu'il a parlé de 3% à 10% là. Mais ils disent les taux mensuels. C'est ça le problème. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de ne pas tomber dans les intérêts exorbitants que les banques nous imposent.
Bon, il faut d'abord dire, Jeff, merci pour la question. Je dois d'abord vous dire que en matière de taux d'intérêt, ce qu'ils font, d'abord, c'est, ça existe. Donc, il y a le taux d'intérêt que nous appelons débiteur. Hein, c'est que eux, ils vous proposent lorsque vous allez déposer votre épargne. Il y a le taux d'intérêt créditeur. C'est que vous, vous devez payer lorsque vous allez prendre un crédit. Et là, la fixation de ces deux types de taux doit pouvoir permettre de dégager une différence. La différence, c'est ça qui permet à l'institution de pouvoir fonctionner. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le taux d'intérêt sur l'épargne, c'est un taux qui est à un niveau beaucoup plus bas par rapport au taux d'intérêt sur le crédit. Parce que c'est cette différence-là qu'on doit utiliser en partie pour payer celui qui a déposé son argent et l'autre partie pour que l'institution puisse continuer à fonctionner, couvrir ses charges. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que...
Mais un taux de 8% le mois, c'est quand même beaucoup.
Apparemment, c'est beaucoup. Mais vraiment, sans cas concret, je ne saurais pas très bien...
Parce que vous avez dit tout à l'heure, d'après la loi, ça ne doit pas dépasser 5%.
Oui, ça ne doit pas dépasser 5%. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le taux d'intérêt n'est pas fixé par hasard. Le taux d'intérêt est fixé en fonction des charges que l'institution encourt.
Alors, qu'est-ce que vous direz à Jeff? Quel conseil vous donnez à Jeff?
Ce que moi, je pourrais donner comme conseil à Jeff, c'est qu'il puisse d'abord calculer le coût. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure,
oui.
Qu'il calcule tous les coûts en rapport avec le crédit qu'il désire solliciter. Et en dehors, quand il a calculé ces coûts-là, il faut qu'il calcule les bénéfices. L'activité que je vais exercer me donne quel bénéfice? Et si Jeff trouve que l'activité lui donne des bénéfices suffisants pour pouvoir rembourser le crédit et les intérêts qui sont demandés, et puis rester avec des bénéfices pour lui, alors en ce moment-là, je pourrais le conseiller de prendre ces crédits-là. Sinon, peut-être qu'il faut chercher une autre institution qui pratique des prix ou des taux d'intérêt beaucoup plus abordables. Quoi.
Oui, donc c'est après avoir fait tous ces calculs, il voit ce que lui-même aura comme bénéfice et puis il peut se décider à ce moment-là.
Naturellement, il faut faire un calcul de ses propres coûts. Il faut savoir le crédit va me coûter combien. Et comme je disais, pas seulement calculer les intérêts à rembourser, mais calculer aussi le coût de transaction, tout ce qu'on va faire comme transport, peut-être formation et ainsi de suite, le coût d'opportunité, parce qu'on peut utiliser ce temps pour faire autre chose aussi. Donc c'est tout le conseil que je peux donner à Jeff pour l'instant.
Alors imaginez-vous, on est dans un cas où quelqu'un vient de recevoir un crédit, et puis voilà, il y a une situation qui arrive dans la famille, un cas de décès où on a vraiment besoin d'argent, on est devant c'est une urgence, et puis il est tenté parfois d'utiliser cet argent, il s'est dit, bon, je peux utiliser une partie et on verra après. Qu'est-ce que vous direz à ces gens qui pensent comme ça?
Merci bien. Donc, c'est l'étape à laquelle je voulais arriver tout à l'heure.
Oui.
L'analyse complète de l'activité à exercer.
Mm-hmm.
Vraiment, il faut faire une analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce que j'obtiens après cette activité? Il faut que je puisse faire une analyse de l'environnement. C'est-à-dire, je dois savoir si on est dans un pays où il y a l'inflation, quel est le taux d'inflation? Est-ce qu'on est en période de croissance ou bien en période de récession et ainsi de suite? Mais je dois analyser ma capacité de remboursement.
Oui.
Quand je dis analyser ma capacité de remboursement, c'est quoi? C'est-à-dire, je vois, est-ce que j'ai des bénéfices? Oui, si j'exerce cette activité, j'arrive à obtenir des bénéfices pour moi et pour l'institution. Mais l'autre question que je me pose, c'est que si j'échoue dans cette activité,
voilà.
Est-ce que j'ai un autre moyen qui me permet de pouvoir rembourser ce crédit-là. Donc, et par rapport à ça, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de dire, bon, voilà, comme il y a un décès, il y a un problème de maladie,
je vais
d'abord utiliser cet argent-là,
oui.
Parce que souvent, cet argent sent mauvais. C'est-à-dire, quand on l'a utilisé
oui.
pour autre chose, souvent, on n'arrive pas à de bons résultats.
Oui.
On n'arrive pas à de bons résultats parce que vous ne savez pas réaliser votre projet et c'est toute votre personnalité qui est entamée.
Mm-hmm.
En plus de la personnalité, il y a peut-être des garanties que vous avez déposées pour que vous puissiez avoir ce crédit-là.
Il y a certaines institutions qui exigent vous apporter, par exemple, je ne sais pas, les documents, les titres de propriété, vous venez, vous mettez, il y a des garanties qu'ils demandent quand même.
Ils demandent des garanties, et ces garanties-là, au bout d'un certain temps, lorsque vous n'avez pas remboursé à temps, d'abord il y a des pénalités qu'il faut payer au-delà des intérêts qui étaient prévus,
oui.
Et toutes les pénalités-là, ça compte toujours dans la garantie que vous avez déposée.
Mmh.
Et il arrivera un moment, ça dépend des règlements que l'on applique, il arrivera un moment où ces garanties seront carrément liquidées. Et vous risquez comme ça de perdre votre parcelle ou je ne sais pas moi, un bien de grande valeur que vous avez déposé.
Mmh.
Donc par rapport à votre question, je puis me résumer en disant que ce n'est pas conseillé d'utiliser l'argent de crédit que l'on a pris pour un objet précis à autre chose. C'est au fait ce qu'on appelle le détournement de crédit.
Oui.
Et ça, ce n'est pas autorisé.
Et là, et quand on vous accorde le crédit, est-ce qu'il faut amener toute cette masse d'argent à la maison ou c'est mieux de garder cet argent en banque et venir prendre petit à petit?
Vous savez, garder l'argent à la maison, c'est toujours quelque chose qui n'est pas à conseiller. On est effectivement dans un système qui pose problème, mais maintenant, là, les banques sont en train de reprendre. Il y a toutes les institutions de microfinance qui fonctionnent.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est de garder son argent dans une banque ou dans une institution de microfinance et faire les opérations au fur et à mesure. Vous pouvez amener tout cet argent à la banque, mais on peut vous voler cet argent à la maison. Ça peut, je ne sais pas moi, vous pouvez connaître un incendie qui brûle carrément tout ce que vous avez comme argent. Et puis, il y a parfois des cas malheureux. On a vécu ici dans quelques temps, il y a quelques temps, on a vécu, comment on appelle, la démonétisation.
Oui.
C'est la nuit. Le matin, quand vous vous réveillez, vous aviez une malle d'argent et on vous dit, maintenant là, c'est fini,
c'est
tout
fini.
Ça, c'est du papier.
Ça ne sert plus à rien.
Alors, en ce moment-là, oui, vous ne saurez pas rembourser le crédit. Et si vous ne savez pas rembourser le crédit, ça devient très dommage.
Vous êtes dans de beaux draps, là.
Vous êtes vraiment dans de mauvais draps, plutôt.
Viviana nous appelle depuis Goma. Bonjour, Viviana.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
En fait, je voulais demander à notre invité,
oui,
en cas de faillite, et si on veut encore avoir un crédit pour couvrir cette faillite, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ok, Viviana, en cas de faillite, si vous voulez avoir un autre crédit, au fait, c'est ce que nous appelons dans le langage des microfinances, le refinancement. C'est-à-dire que vous avez eu un crédit, et puis, vous n'êtes pas arrivé à obtenir les résultats et vous demandez le refinancement. Il y a des institutions qui acceptent. Mais avant de pouvoir accepter, on fait l'analyse complète de votre situation en tant qu'emprunteur. Donc, il faut qu'on puisse savoir d'abord d'où est venue la faillite. Si on trouve que c'est tout simplement de la mégestion, il n'y a personne qui va accepter de vous refinancer. Mais s'il y a eu un cas de force majeure, peut-être vous avez été là où vous avez été, il y a eu un vol, il y a eu peut-être une guerre, et à l'issue de cette guerre, vous avez perdu tous vos biens. Alors, en ce moment-là, si l'institution accepte dans sa politique de crédit le refinancement, l'institution peut faire. Donc, la clé par rapport à votre situation, c'est l'analyse de la faillite. L'institution devra faire une analyse de la faillite et voir quelles sont les causes de cette faillite-là. S'il s'avère que ce sont des causes externes par rapport à votre gestion, et si la politique de crédit de l'institution autorise le refinancement, je crois qu'on peut le faire. Mais ce qu'il y a, ce que je pourrais vous conseiller pour l'instant, c'est travailler de manière à ce que vous ne puissiez pas arriver en faillite.
Radio Okapi, Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-63-94 et envoyez vos SMS au 081-070-20-50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Okapi. Comment gérer d'une manière rationnelle un micro-crédit? Donc, vous venez de suivre là Didier Nsassai qui a donné, n'est-ce pas, les différents points qu'il faut observer, des calculs qu'il faut faire dans la gestion de votre crédit. Mais souvent, il y a certaines institutions qui demandent, par exemple, vous venez solliciter un crédit, c'est bien. Mais dites-nous, quelles sont les personnes qui sont à mesure de rembourser au cas où vous ne pourrez pas le faire? C'est ce qui arrive souvent.
Le tout dépend de la politique de crédit,
oui,
qui est appliquée au niveau de l'institution. Il y a des institutions qui demandent qui posent une série de conditions. D'abord, vous, l'intéressé qui devez prendre un crédit, il faut qu'on analyse votre situation. Mais autant on se dit, vous pouvez prendre le crédit et pendant que vous allez en route, vous faites un accident, vous mourrez. C'est des choses qui peuvent arriver.
Oui.
Mais si vous mourrez, eh bien, qu'est-ce qui peut arriver? C'est des questions que l'on se pose et en ce moment-là, dans votre demande de crédit, on mentionne le nom de la personne qui doit pouvoir assumer vos responsabilités lorsque vous n'êtes pas là.
Ça, vous, faites attaquer par, vous êtes attaqué par des bandits armés en cours de chemin.
Oui, vous pouvez être attaqué par des bandits, mais ce qu'il y a à faire au niveau de l'institution, on prend la précaution de savoir si un malheur vous arrive. Si vous ne pouvez plus rembourser, qui est-ce qu'on doit poursuivre? Et là, il y a des termes que nous utilisons, par exemple, pour dire un avaliseur. C'est-à-dire quelqu'un qui se porte garant pour que si jamais vous ne remboursez pas le crédit, lui il va assumer.
Voilà, nous avons en ligne Francis, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Francis.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Bon, je vais bien lui poser la question de savoir, pour avoir des crédits, il faut seulement avoir des parcelles et des biens. Si tu n'as rien, il n'y a pas moyen de te donner.
Ok Francis, merci pour la question. Il ne suffit pas d'avoir une garantie matérielle. Ce que vous citez là, le bien, les maisons, tout ça, ce sont des garanties matérielles. Mais il y a aussi ce que nous appelons en microfinance l'aval. C'est-à-dire, vous pouvez voir si dans cette institution-là, là où vous voulez solliciter le crédit, il y a quelqu'un qui a un compte. Et alors, s'il y a une personne qui a un compte, vous pouvez l'approcher pour savoir s'il peut garantir votre crédit. C'est-à-dire, au niveau de l'institution, on va bloquer une partie de son argent, de son épargne, jusqu'au moment où vous allez rembourser le crédit. Et cette personne, c'est un avaliseur. Donc, vous devez l'approcher pour savoir s'il peut accepter de bloquer une partie de ses épargnes pour ça. Mais, en dehors même des épargnes, l'aval aussi s'est fait suivant le crédit que l'on a par rapport à celui qui demande. C'est-à-dire, quand vous avez demandé à quelqu'un, il peut ne pas avoir un compte, mais il a tellement l'habitude de prendre le crédit et de rembourser. Au niveau de l'institution, on le connaît, on a confiance en lui. Et grâce à son intervention, il se porte garant et on vous donne à vous le crédit. Mais là, il faudrait vraiment que vous puissiez rembourser ce crédit-là, parce que si vous ne le remboursez pas, c'est lui,
sa crédibilité
qui est entamée.
Oui.
Et vous voyez donc, pour qu'une personne comme ça accepte qu'il puisse avaliser votre
crédit,
c'est pas facile, donc il faut que vous puissiez, vous aussi à votre niveau, lui donner beaucoup plus de garanties pour que cette personne accepte. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant.
Voilà, merci beaucoup Didier Sassari, formateur à INADES. INADES, qu'est-ce que cela veut dire?
INADES, c'est Institut africain pour le développement économique et social.
Oui.
C'est une ONG internationale, le siège est situé à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Voilà.
Alors, INADES a 10 bureaux au niveau de l'Afrique ici, dont INADES Formation Congo. C'est pour dire le bureau d'INADES formation au Congo.
Oui.
Alors, on travaille ici à Kinshasa, on a un bureau d'intervention. On a un bureau d'intervention aussi à Kananga pour s'occuper de deux Kassai.
Oui.
On a un bureau d'intervention
Kikwit. Vous donnez des formations partout dans ces zones-là.
Il y a l'accompagnement d'abord des dynamiques organisationnelles paysannes.
Mm-hmm.
Et dans les dynamiques organisationnelles paysannes, il y a la structuration et le développement des filières agricoles.
Oui.
Il y a l'appui aux institutions de microfinance que nous appelons le Fonds de solidarité pour le développement, FONSDEV.
Mm-hmm.
Et il y a l'appui à l'émergence du mouvement paysan.
Voilà, Didier Sassari, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Je remercie Radio Okapi pour cette opportunité. Je remercie les auditeurs qui ont pu poser l'une ou l'autre question. Je crois qu'on reviendra à une autre occasion. Merci.
Merci. Okapi.